Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos et à la une. Ira, ira pas. La rumeur, Zinedine Zidane au PSG démenti. Le club nie, l'entourage de Zizou aussi. Mais le feuilleton a animé la journée sur les réseaux sociaux et dans les discussions entre supporters depuis Marseille, sa ville natale, jusqu'à la capitale. Les autres titres à la une maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un témoignage RTL M6 ce soir. Une amie d'enfance de l'ado tueur de Clessé. Il s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide, plaisanter sur ses intentions de tuer sa petite amie. Humour noir, dit-elle, que personne ne prenait au sérieux. Les réquisitions dans le procès des attentats du 13 novembre, plusieurs peines de perpétuité incompressibles demandées, notamment à l'encontre de Salah Abdeslam. À suivre aussi le squat de la discorde dans l'Essonne et les ambitions qui s'aiguise au Rassemblement National pour la direction du parti avant même les législatives.
Dans un quart d'heure, le duel Macron-Mélenchon, dernières heures de campagne, justement avant les législatives. Sarah El Haïry, encore au gouvernement il y a quelques jours, porte-parole du Modem, sera notre invitée de 18h15. 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes positives comme chaque vendredi, près de chez vous, avec vous Marion.
Et avec les champions de France du café, le pont de singe de la discorde en Haute-Loire ou encore une recette basque de poisson.
À 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
What is le menu ?
Eh bien, nous parlerons des relations entre les Français et la police, la crise à l'hôpital et puis la voiture électrique. Quels sont les conducteurs les plus dangereux en Europe ?
Les Français ?
Bah non, bah pas non. Du tout. Ouais. Et non, réponse à 19h15.
C'est contre-intuitif. Et puis le temps, deux fois par demi-heure avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
La tendance pour demain ?
Une tendance très très chaude demain, dimanche et toute la semaine prochaine aussi. On repart dans la chaleur.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Tiens, tiens. Comme une sensation de déjà-vu, après le feuilleton Mbappé, va-t-on assister au feuilleton Zidane ? Apparemment, il a d'ores et déjà bel et bien débuté.
L'ancien entraîneur du Real Madrid va-t-il rejoindre le PSG la saison prochaine ? Oui, disaient ce matin certains médias. Info démentie ce matin, notamment par le conseiller historique de Zizou.
Alors, on se tourne vers vous, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot à RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous le confirmez, ce soir, c'est loin d'être fait, hein ?
Non, effectivement. D'ailleurs, le club dément tout accord, ce qui est normal, vous me direz. Mais même en privé, hein, plusieurs acteurs contactés par RTL aujourd'hui, en interne ou proche de la direction, se montrent à minima prudents, voire très surpris par ces rumeurs.
Bon, alors cela dit, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient faire pencher Zizou vers le PSG, non ?
Alors, ce qui est factuel, c'est que Zinedine Zidane est déjà ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, dont il avait, souvenez-vous, soutenu la candidature bien en amont, hein, il y a déjà 12 ans. Il entretient de fait des rapports privilégiés avec l'Émirat. Zidane, qui est libre actuellement, qui rêve de l'équipe de France, mais où la place est prise, alors qu'au PSG, eh bien, il serait accueilli à bras ouverts. À ce titre, comme dans le dossier Mbappé, d'ailleurs, les entourages d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy se sont activés ces dernières semaines avec des arguments qui résonnent à l'oreille de intéressé.
Sauf que Zizou, Philippe, il est marseillais. Ça compte quand même, j'imagine, dans sa décision.
Oui, même si on rappelle qu'il n'a jamais joué à l'OM, mais il en reste un fidèle supporter. Zidane, rarement à Marseille physiquement, mais qui possède beaucoup d'affaires dans la région. Un départ pour Paris aurait des allures de cataclysme. Certains proches, jusque dans sa famille, lui ont clairement fait part de leur réticence. Et puis il y a enfin ses conditions de travail. À Paris, on se souvient qu'il avait en partie quitté le Real Madrid, frustré de ne pas avoir la main sur le recrutement. Là, le PSG vient d'officialiser aujourd'hui l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif, ce qui limiterait de fait l'influence de Zinedine Zidane.
Les informations de Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. On vous retrouve ce soir, Philippe, en direct de Vienne.
Et oui, pour le troisième match des Bleus en Ligue des Nations contre l'Autriche, RTL Foot dès 20h, le match à partir de 20h45.
RTL Soir.
18h04, c'est un document RTL M6 maintenant. Le témoignage d'une amie d'enfance du jeune meurtrier présumé de Clessé en Saône-et-Loire.
À 14 ans, il a reconnu hier avoir tué sa petite amie. Le procureur de la République de Mâcon a évoqué ce matin une altération de son discernement. Son amie d'enfance, elle raconte la dérive du jeune homme ces derniers mois.
Il s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide. Et quand j'étais en heure de colle avec lui, avec son stylo, il s'amusait à le pointer contre sa feuille, brusquement.
C'est-à-dire le pointer contre sa feuille ?
Bah, comme s'il lançait un couteau. Seul, il était très discret, pensif. Il parlait pas trop et je trouve qu'il gardait un peu tout pour lui. Mais quand il était pas seul, bah, il était plus à l'aise. Il disait en humour noir qu'il voulait la tuer, qu'il voulait de la violence contre elle. Mais nous, on prenait à la rigolade parce qu'on pensait pas qu'il allait faire ça. On pensait qu'il rigolait, donc on disait pas qu'il était menaçant. Enfin, Emma lui faisait confiance et je pensais pas qu'il pouvait faire quelque chose comme ça.
Un témoignage RTL M6 recueilli par Julie Brault. La fin du réquisitoire dans le procès des attentats du 13 novembre. Cindy Hubert, vous êtes devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Les avocats généraux ont requis la perpétuité incompressible contre Salah Abdeslam.
Ah oui, Salah Abdeslam a le sang de toutes les victimes sur la conscience et juridiquement, c'est comme s'il l'avait sur les mains. Les mots de l'avocat général résonnent dans un silence total. Les magistrats en sont convaincus, Salah Abdeslam a bien actionné sa ceinture le soir du 13 novembre. Il veut semer la mort, sans doute dans le métro, alors qu'il est à quelques mètres de la station Saint-Plon, dans le 18e arrondissement. L'accusé insiste sur le fait qu'il n'a tué personne, alors qu'il vient de déposer 3 bombes vivantes, les 3 kamikazes du Stade de France. Il n'a émis aucun remords, il n'a plus que sur son sort et celui de sa mère. Il reste enfermé dans le carcan de l'État islamique. Pour ces attentats les plus sanglants de l'histoire de France, la peine doit donc être maximale pour Salah Abdeslam. La perpétuité incompressible, aucun aménagement de peine possible et une période de sûreté illimitée qui ne peut être levée qu'à de multiples conditions et pas avant 30 ans.
Et pour les 19 autres accusés, Cindy, les peines requises vont de 5 ans à, là encore, la perpétuité incompressible.
Oui, perpétuité incompressible demandée pour le commanditaire de ces attaques, Oussama Attar, jugé en son absence car présumé mort. 5 ans pour l'un des convoyeurs d'Abdeslam qui comparaît libre et pourrait donc ne pas repartir en prison. Entre les deux, les peines réclamées sont lourdes. Nous récusons fermement l'expression de second couteau. Sans les faux papiers, les planques, les recherches d'armes, il n'y aurait pas eu d'attentat, martèlent les avocats généraux. Les peines doivent être à la hauteur de la somme colossale des souffrances. Votre verdict ne ramènera pas les morts, il ne guérira pas les blessures, mais il pourra assurer que c'est la justice qui a le dernier mot.
Et parole à la défense, hein, désormais pour les 2 prochaines semaines. Le verdict est attendu le 29 juin prochain. Cindy Hubert, merci.
Allez, une pause dans ce journal et dans un instant dans RTL Soir, à la fois le squat de la discorde dans l'Essonne et puis, avant même les législatives, la guerre de succession déjà au Rassemblement National. On vous explique tout juste après ça. Restez à l'écoute.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h09, bonne fin de journée avec RTL Soir. La suite de votre journal maintenant avec le dénouement d'un imbroglio qui a mobilisé jusqu'au ministre de l'Intérieur.
L'histoire de cette maison squattée achetée par un couple dans l'Essonne. Bonsoir Mourad Jabari.
Bonsoir.
Les squatteurs ont quitté les lieux la nuit dernière après avoir été agressés.
Oui, alors que la famille chargeait leur voiture de quelques affaires, une dizaine d'hommes cagoulés arrivent et aspergent de gaz lacrymogène le couple et ses 5 enfants de 4 et 16 ans. Le véhicule de la famille a été également dégradé. La famille qui a tout de suite déposé plainte. Une enquête a été ouverte. Une agression que déplore Laurent, le propriétaire de la maison.
Ils m'ont mis en porte-à-faux là. C'est, bah, vous savez, les riverains hier, ils étaient vivement touchés et énervés de la situation. Tout le monde klaxonnait, virez-moi ça, virez-moi les, etc., etc. Il y a des gens qui ont certainement pris parti, mais là, c'était pas du tout la chose à faire, je pense.
La famille a été relogée dans un centre de loisirs de la mairie. Cette agression survient après des jours de médiatisation. Une affaire qui avait agité la fachosphère ces dernières heures sur les réseaux sociaux. La récupération politique aussi, avec un tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier. Et Laurent, le propriétaire, qui a multiplié les vidéos devant sa maison, avec notamment des députés du parti Reconquête.
Et en fait, Mourad, on découvre que les propriétaires, eh bien c'est en connaissance de cause qu'ils avaient acheté cette maison.
Absolument. La courte enquête a déterminé que la présence de la famille occupant la maison était bien inscrite sur l'acte notarié, mais le propriétaire n'a jamais insisté sur ce fait, a parfois nié ou avoué à demi-mot. Mais il était forcément au courant, comme l'explique Yann Coulant. Il est à la tête d'une agence spécialisée dans le rachat de biens squattés.
Je pense que la démarche est malhonnête. L'acquéreur a parfaitement conscience qu'il achète une maison qui est occupée. Nous, quand nous achetons des maisons squattées, il est stipulé dans l'acte de vente que le bien est squatté. Il est stipulé dans l'acte de vente, si le bien est loué, eh bien on doit, dans l'acte de vente, stipuler qu'il y a un locataire. Et quand c'est un squatteur, on stipule qu'il est occupé par des personnes sans droit ni titre.
C'est pourquoi les propriétaires ont acheté ce pavillon avec un grand jardin à un prix presque dérisoire par rapport au prix du marché en Ile-de-France.
Les précisions de Mourad Jabari pour RTL.
Les incidents du Stade de France après les vidéos effacées du stade. On apprend que celles de la SNCF et de la RATP ont aussi été automatiquement supprimées. On va y revenir tout à l'heure à 19h.
Un coup de fil hier et une prise de position forte ou comment l'Elysée entend réaffirmer son soutien à l'Ukraine.
L'appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie avait fait beaucoup parler. Alors aujourd'hui, Bénédicte Tassard, Paris a ouvertement pris fait et cause pour Kiev.
Une mise au point nécessaire, les critiques se multipliaient, surtout dans l'Est de l'Union européenne, sur les propos du président. Le jour où la guerre sera terminée, il ne faudra pas humilier la Russie. Voilà les dires exacts d'Emmanuel Macron, précise l'Elysée. Il n'y a aucune concession à Vladimir Poutine. Un principe, la victoire de Kiev et que les Russes se retirent de l'ensemble du territoire ukrainien. Il faut que l'Ukraine soit victorieuse dans cette affaire, mais que nous trouvions les moyens d'une paix négocié, ajoute l'entourage du président. D'ailleurs, hier, à l'issue du coup de fil entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ce dernier n'a pas critiqué le chef de l'État français, rétorque l'entourage du président.
Les précisions de Bénédicte Tassard pour RTL. Et pendant que l'Élysée regarde vers l'Ukraine, au Rassemblement national, c'est déjà, alors même que l'on n'a pas voté, sur l'après-législative que les têtes d'affiche du parti se projettent.
Ah oui, guerre de succession en perspective. Pour l'instant, c'est Jordan Bardella qui assure l'intérim à la tête du parti. Il pourrait être a priori le dirigeant naturel du RN, sauf qu'en fait, certains fourbissent déjà leurs armes, Marie Mollet.
Oui, jusqu'ici, le parti tout entier était en pamoison devant le prodige Bardella, la machine de guerre, le fils spirituel de Marine, comme certains le surnomment. Mais il semblerait que l'état de grâce touche à sa fin et que les couteaux s'aiguisent. Vous connaissez la ligne Bardella ? Moi, je n'en ai aucune idée, persifle un élu. Quel est son parcours ? À 26 ans, on n'a rien vu, rien vécu, attaque un autre. Des critiques que l'on n'entendait pas jusqu'ici et qui coïncident avec une sortie de Louis Alliot, le maire de Perpignan, cette semaine. Une petite bombe, puisqu'il ouvre la porte à sa candidature à la présidence du parti. Ça, c'est le début des emmerdes, prédit un cadre RN qui redoute une guerre de succession sanglante, façon LR. D'autant que l'enjeu, c'est certes la direction du parti, mais surtout à l'horizon, la candidature pour 2027. Attention, Éric Zemmour est toujours dans le paysage. C'est pas le moment de s'étriper, dixit un élu. En interne, certains conjurent Marine Le Pen de rester aux manettes, justement pour éviter le pugilat.
L'avenir qui s'annonce donc agité au RN. Merci Marie Mollet.
Et puis c'est une première en 8 ans. Les ventes de produits bio en France ont baissé l'an dernier, -0,5%. Au-delà des choix des ménages avec l'inflation, évidemment, l'autre problème, Virginie Garin, ce sont en fait les débouchés de ces produits.
Voilà, alors il y a une baisse de la consommation, comme dans tout l'alimentaire, les gens font plus attention. Et en même temps, la production de bio est en hausse. Alors ce n'est plus anecdotique le bio en France. Il représente plus de 10% de la surface agricole, 58 000 exploitants, 5 000 de plus l'an dernier, qui se sont retrouvés parfois ces derniers mois avec trop de produits dans le lait, les œufs. En fait, une loi votée il y a 4 ans, la loi Egalim, a encouragé les agriculteurs à se convertir en leur promettant des marchés publics dans les cantines. Le bio devait représenter 20% cette année, bien il ne dépasse pas 6%. Donc, aïe, les producteurs demandent à l'État de faire appliquer sa loi. Il peut agir, par exemple, via les commandes de l'éducation nationale. Il rappelle que le bio, c'est bon pour l'environnement et c'est 30% d'emplois en plus que dans une ferme conventionnelle.
Un rappel qui ne fait pas de mal aussi. Merci Virginie Garin.
Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion et à tout à l'heure. Le temps pour demain, Valérie, c'est le début de la chaleur, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est vrai. Les températures commencent à grimper. Alors pas demain matin. On aura 9 degrés au réveil à Nancy, 11 à Cherbourg, 12 à Orléans, 19 à Montpellier. Un ciel un petit peu cafouilleux quand même sur les régions au nord de la Seine avec 2-3 gouttes de pluie près des frontières du Nord, mais ça se lèvera très largement l'après-midi avec un temps ensoleillé partout et juste un petit risque orageux sur les Pyrénées. Quant à la fourchette de température de la mi-journée, ça ira de 20 à 36 degrés du nord au sud.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL, eh bien, elle vous donne les clés avant les élections législatives dimanche, fin de la campagne tout à l'heure, à minuit. Alors les règles sont parfois assez obscures pour ce scrutin, donc on va vous éclairer pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Alors expliquez-nous, dimanche, comment les candidats seront qualifiés, s'ils y arrivent, pour le second tour dans leur circonscription?
Le plus simple, c'est d'être dans les deux premiers. Comme ça, pas besoin de sortir la calculette. Si vous avez plus de voix que les autres, si vous êtes premier ou deuxième dimanche soir, vous avez le droit
de revenir dimanche prochain.
Donc ça veut dire que le second tour, ça peut être un duel, mais aussi un affrontement entre 3 ou 4 candidats ?
Oui, en théorie, parce que d'autres candidats donc, peuvent se qualifier au second tour, même s'ils ne sont pas dans les deux premiers. Pour ça, concentrez-vous un petit peu, il faut qu'ils aient recueilli un nombre de voix au moins égal à 12,5%, non pas des suffrages, mais des inscrits. 12,5% des gens qui figurent sur les listes électorales. Donc s'il y a beaucoup d'abstention, cette barre sera très difficile à atteindre. Est-ce que c'est clair ? Si par exemple, s'il y a 50% d'abstention, il faudra 25% des voix pour passer au second tour. Donc normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de triangulaires, pas de quadrangulaires. Et s'il y a des triangulaires, vraiment, ça se comptera sur les doigts d'une main.
Et est-ce qu'un candidat peut être élu député dès le premier tour ?
Oui, s'il fait plus de 50% des voix et si au moins un électeur sur 4 s'est déplacé, c'est plié, c'est gagné.
On entend beaucoup parler de l'inquiétude d'Emmanuel Macron qui se demande s'il aura, oui ou non, une majorité absolue. Il faut combien de députés pour y parvenir ?
Alors là, c'est pas moi qui vais faire le boulot, Julien, c'est vous. 577 divisé par 2.
Il en faut 289.
C'est pas du jeu, ça. C'est pas la réponse, oui. C'est ça. 288,5, donc il faut être un petit peu au-dessus de ça. 289 députés, vous avez cette fameuse majorité absolue.
Sans majorité absolue, c'est compliqué de gouverner.
Oui, c'est la galère. Si vous arrivez en tête, mais en dessous du chiffre magique de 289, ça veut dire que tout seul, vous ne pouvez pas faire passer vos textes de loi. Ça veut dire la négociation permanente, ça veut dire le compromis permanent avec d'autres formations politiques, et ça veut dire des concessions en permanence, des ambitions revues à la baisse. Je vous laisse imaginer si Emmanuel Macron doit faire passer sa réforme des retraites sans majorité absolue.
On imagine. La Brigade RTL avec William Galibert. Merci William. Nous avons maintenant toutes les clés en main pour nous plonger dans la bataille politique. Un duel Macron-Mélenchon s'est installé. Encore quelques heures, on l'a dit, de campagne avant ces élections. Pourquoi le président d'ailleurs est descendu dans l'arène ? Pourquoi il tape si fort sur la gauche ? Sarah El Haïry, la porte-parole du Modem au gouvernement il y a encore quelques jours, sera notre invitée juste après ça.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Très bonne fin de semaine avec RTL Soir. Fin de semaine, fin de campagne aussi. Tic-tac, elle s'achève dans moins de 5h45 maintenant. Ensuite, ce sera silence radio pour les candidats jusqu'à dimanche, jusqu'au premier tour des élections législatives. Ces dernières heures, un duel Macron-Mélenchon s'est installé. Est-ce que la fébrilité gagne les marcheurs et leurs alliés ? On va poser la question à notre invitée ce soir, Sarah El Haïry. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous étiez, il y a encore quelques jours, au gouvernement, secrétaire d'État. Vous êtes porte-parole du Modem, députée en Loire-Atlantique, candidate à votre réélection. C'est vrai qu'on a vu Emmanuel Macron descendre vraiment dans l'arène hier, avant-hier, attaquer l'alliance de gauche. Jean-Luc Mélenchon, il voit une forme de fébrilité dans votre camp. Est-ce qu'il y a de la fébrilité, Sarah El Haïry ?
Moi, ce que je vois, c'est des fissures qui apparaissent déjà dans le programme de la NUPES, dont je crois finalement la gêne de M. Mélenchon, puisque la réalité a encore été mise en lumière hier lors d'un débat télévisé, où ces alliances qui n'ont rien en commun marquent déjà leur dissonance. C'est un appel au désordre, sans vraiment exagération. On voit les propos de M. Mélenchon sur la police, on voit la position du Parti Socialiste qui oublie tout son combat pour la laïcité et l'universalisme, on voit les écologistes renier leur histoire européenne, on voit les communistes oublier leurs engagements pour le nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, cette alliance qui a été montée de briques et de brocs pour essayer de faire un coup politique, on en voit les fissures, et je crois qu'il est bon, quand le désordre pointe, que le président de la République rappelle les risques et les dangers.
Alors justement, sur la place du président de la République, je voudrais revenir sur ce rôle d'Emmanuel Macron ces derniers jours. On a l'impression qu'il a un peu endossé le costume de directeur de campagne, et Jean-Luc Mélenchon, toujours lui, dit ce n'est pas au président de mener la campagne législative. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Quand vous avez le premier opposant aujourd'hui dans cette campagne, M. Mélenchon, appelé au désordre le plus complet, au désordre institutionnel pour ne pas respecter les traités européens, au désordre et ajouter de la crise à la crise. Nous avons une urgence. Cette urgence, c'est le pouvoir d'achat. Sauf que face à ça, il se passe quoi ? M. Mélenchon fracture le pays ? Appelle finalement quasiment à l'insurrection contre les forces de l'ordre alors qu'elles risquent leur vie pour nous protéger ? Eh bien, je trouve qu'au contraire, face à ce risque de désordre, eh bien, le président de la République est totalement dans son rôle pour rappeler que oui, il faut lui donner une majorité forte, solide, d'expérience et cohérente, parce que la situation est grave. Il ne faut pas jouer avec le feu.
On vous entend taper très très fort, Sarah El Haïry, sur l'alliance de la gauche. C'est le cas de tous les ministres, tous les ténors de la majorité depuis maintenant quelques jours. Est-ce que ça veut dire dire qu'il y a une crainte au MoDem chez Renaissance de perdre par exemple la majorité absolue, puisque certains sondages expliquent que ce sera très compliqué de la garder.
Vous savez, moi je suis effectivement du mouvement démocrate, et dans le nom même de mon parti politique, il y a démocratie. Il n'y a pas de fiction, de commentaires potentiels de sondages. L'expression démocratique aura lieu dimanche. Par contre, ce que je vois, et je le vois également
donc
sur le terrain,
pas de
c'est qu'il y a une force... Non, il y a une campagne qui a été menée avec beaucoup de conviction, avec un projet. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une force politique dans notre pays, portée par Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas arrêté de faire une campagne totalement populiste et improbable. Quand il appelle à financer un projet infinançable de 320 milliards d'euros, il faudrait plus d'un milliard par jour d'investissement supplémentaire. Franchement, aujourd'hui, cette campagne n'est plus une campagne de projet contre projet, c'est une campagne où il y a de la démagogie, du populisme et effectivement un risque de désordre. Et c'est bien pour ça qu'il est grand temps de remettre peut-être les points sur les i.
C'est assez étonnant, Sarah El-Haïry, de vous entendre du côté de la majorité taper aussi fort aujourd'hui sur la gauche, alors qu'il y a 7 semaines, vous tapiez sur le Rassemblement national et vous appeliez les électeurs insoumis à venir voter pour vous au second tour de l'élection présidentielle.
Je vais être extrêmement clair sur ce point-là. Il se trouve que la NUPES, ce n'est pas la gauche. C'est aujourd'hui un alliage porté par Jean-Luc Mélenchon qui est d'extrême gauche. Moi, j'appelle effectivement les électeurs du Parti Socialiste, qui sont des sociodémocrates attachés à la laïcité, à l'universalisme. J'appelle les responsables écologistes, qui sont profondément européens, évidemment à voter pour la majorité présidentielle. Parce qu'il faut 5 ans de travail concret, de finalement un Parlement qui avance et qui construit avec le président de la République, et pas 5 ans de petites bagarres, de volonté de revanche, ou finalement simplement de vengeance. C'est ce que fait aujourd'hui M. Mélenchon.
Une question, Sarah El-Haïry, puisque Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos les extrêmes ces derniers jours. Dans les circonscriptions dimanche, s'il y a des duels NUP-RN, quelle sera l'attitude des candidats Renaissance Modem éliminés? Est-ce que vos candidats appelleront à voter NUP, à voter contre l'extrême droite? Est-ce qu'ils s'abstiendront de donner une consigne de vote?
Les extrêmes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Éric Zemmour, c'est les mêmes faces d'une même pile. Ce sont deux extrêmes qui essayent fondamentalement de mettre le bazar dans le pays et de le diviser. J'espère, très sincèrement, parce que dimanche, le premier tour n'est pas arrivé, que dans aucune circonscription de notre pays, nous nous retrouvions dans cette situation.
Si c'est le
comme
cas.
Je vous l'ai dit tout à l'heure et que je ne fais pas de politique fiction, la situation sera discutée si ça venait à arriver, mais comme je ne fais pas cette politique fiction, je n'ai pas de réponse à cette question.
Vous ne faites pas de politique fiction, mais ça veut dire que pour l'instant, vous ne dites pas on appellera à voter contre l'extrême droite.
On appellera toujours à voter contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche. Par contre, on ne permettra pas, on ne souhaite pas permettre que ce soit un second tour entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Fondamentalement, il y a une offre politique qui est pragmatique, qui est constructive. Celle-là, c'est celle du président de la République, c'est ensemble, c'est la majorité présidentielle. Et j'appelle au contraire tous les électeurs de notre pays à se mobiliser, parce qu'il y a un risque d'abstention extrêmement important, et de ne pas subir un choix entre l'extrême gauche ou l'extrême droite.
Merci Sarah El-Haïry, ancienne secrétaire d'État, porte-parole du MoDem, d'avoir été ce soir notre invitée en cette toute fin de campagne avant le premier tour des élections législatives. Merci d'avoir été notre invitée sur RTL.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et RTL Soir continue dans un instant avec tout autre chose. Il y aura vos dessous de l'actu, les dessous de la méforme de nos bleus. Je sais que ça vous inquiète beaucoup, chère Valérie.
Oui,
une défaite, un nul, et maintenant un match à ne pas perdre tout à l'heure en Autriche. On ira à Vienne rejoindre nos envoyés spéciaux. Et puis laissez-vous tenter dernière avec une très jolie découverte musicale. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL Soir à vos côtés en cette fin de semaine, 18h30.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et Marion Calais vous rappelle maintenant les 3 grands titres de l'actualité si vous nous rejoignez.
La mise en examen du garçon de 14 ans qui a reconnu avoir tué sa petite amie hier à Clessé en Haute-Saône, mise en examen pour assassinat. Le jeune homme a été incarcéré. Les réquisitions dans le procès des attentats du 13 novembre, des peines de 5 ans de prison à la perpétuité incompressible, demandées notamment à l'encontre meurtre de Salah Abdeslam. Et puis le déplacement annoncé d'Emmanuel Macron la semaine prochaine en Roumanie et en Moldavie, pays voisins de l'Ukraine. Pas de date de visite à Kiev, en revanche, encore fixée.
Et le temps, Valérie, chaleur, soleil demain.
C'est ça, pour tout le monde, un petit peu d'instabilité le matin près des frontières du Nord. On pourra avoir 2-3 averses orageuses aussi sur les Pyrénées en fin de journée, c'est tout. Des températures qui grimpent, 23 degrés à Lille, 26 à Paris, 29 à Strasbourg, 30 à Lyon, 31 degrés à Montauban et même un magistral 36 à Nîmes.
Merci Valérie.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant de la méforme des Bleus qui doivent absolument gagner ce soir en Autriche. Coup d'envoi 20h45, match de Ligue des Nations à vivre dès 20h dans RTL Foot. Victoire impérative parce que les tricolores patinent. Défaite contre le Danemark, match nul en Croatie ces derniers jours. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Alors vous êtes à Vienne pour RTL. 44% des Français s'inquiètent de ses prestations. C'est le résultat de notre sondage Odoxa Kenéo RTL. Et c'est vrai Nicolas qu'on a vu des Bleus pas franchement rassurant ces derniers jours.
Mais oui, parce que ces matchs de juin ne dégagent pas la sérénité entrevue à l'automne ou bien en mars, c'est certain. Le constat porte sur différents points. Des Bleus qui menaient deux fois au score et qui se font reprendre, voire dépasser, et des erreurs individuelles des frères Hernandez, de Pavard, de Saliba, de Klos, etc. Tout ça s'accumule et ça fait beaucoup. Le socle défensif se lézarde, c'est un mal récurrent depuis l'Euro et c'est le principal chantier.
On a vu aussi beaucoup de rotations, beaucoup de changements de joueurs, de schémas tactiques. Il tâtonne Didier Deschamps ?
Il assume surtout ce qu'il avait fixé comme ligne de conduite en début de rassemblement, c'est-à-dire donner du temps de jeu à tous les joueurs, opérer une revue d'effectifs, tester des associations et ne se tenir qu'à ça. Il l'a redit hier.
C'est des choix du moment. On est dans cette phase de préparation.
Et ça, ce n'est pas l'ADN Deschamps. Le grand public n'est pas habitué à ça, faire des concessions sur la gagne.
Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas inquiété quand même pour nos Bleus. C'est grave, docteur Georgerot ?
Alors, il faut remonter à la période post-euro en septembre avec deux nuls et une victoire pour voir autant de flottement. Oui, et la pression s'était resserrée alors sur le sélectionneur. Il faut bien mesurer une chose en comptant ce Autriche-France. Il ne reste que 4 matchs avant le coup d'envoi du Mondial. 4, donc c'est déjà demain. Et ça passe ou ça casse en Ligue des Nations. Mais Deschamps sait que son effectif sera dans de meilleures dispositions physiques à la rentrée. Et il veut être jugé à la Coupe du Monde.
Merci Nicolas. Et à tout à l'heure, donc depuis Vienne, en Autriche. Vous allez nous faire vivre ce match des Bleus sur RTL, RTL Foot dès 20h. À tout à l'heure.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et pour l'heure, 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. C'est le petit rendez-vous culture tous les soirs. Enfin, il n'y a pas de petit rendez-vous culture, surtout quand c'est avec Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On va terminer la semaine avec une découverte musicale. Un auteur, compositeur, interprète de grand talent, c'est ce que vous nous dites. Il s'appelle Florent Marchais.
C'est sûr, elle préfère quand il passe ses nerfs loin de sa peau. Car sans ses colères, ses coups, ses éclairs, comme il est beau. Comme il est beau.
Florent Marchais est né à Bourges en 75. Il commence la musique à 5 ans et à 20 ans, il alterne entre les piano-bars et les prisons, les hôpitaux et les écoles dans lesquelles il intervient comme musicien. Et puis viendra le temps des musiques de films, des chansons pour les autres et enfin des albums pour lui. Et aujourd'hui, Florent Marchais a sorti son 6e album solo, Garden Party, écrit entre un roman, des bandes originales de films et surtout écrit en plein confinement.
Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil. On s'embrasse, on s'agace en famille.
Comme Florent Marchais le dit lui-même, au bout de quelques semaines de confinement, alors que ses enfants excellaient dans l'art de faire du pain, lui, il a réalisé qu'il avait dans son petit cahier orange écrit tout un album. Alors il s'est mis à chanter ses chansons, d'abord devant sa famille, puis devant ses amis, quand on a pu de nouveau se réunir, et enfin devant un public lors de la reprise des concerts.
Avant donc de se décider à enregistrer cet album qui s'appelle Garden Party.
Exactement.
Promets-moi mon amour.
Florent Marchais est de retour. Sa mélancolie, sa manière si douce et si personnelle de raconter son histoire ne vous laisseront sûrement pas indifférents. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite.
Merci encore pour cette jolie découverte signée Julia Molcou ce soir. Florent Marchais, 6e album, Garden Party. Merci.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et dans un instant, RTL Soir va se poursuivre. Et comme chaque vendredi, eh bien, on va refaire nos régions, les 20 minutes positives. Près de chez vous, avec les champions de France du café à Reims, avec le pont de singe qui sème la discorde en Haute-Loire, une recette de poisson du côté du Pays Basque, et puis un coup de fil exotique, un Charentais exilé aux Philippines. À tout de suite, restez à l'écoute. RTL.